Je ne peux pas développer là parce que c'est encore un autre sujet, mais vous pouvez le mesurer avec le poids compris des grandes institutions financières internationales, compris qu'a pris ce qu'on appelle les marchés financiers internationaux. Vous savez que ces marchés aujourd'hui constituent quasiment le baromètre de toutes les économies, voire des baromètres politiques. Rappelez-vous, en 1995, Juppé qui regardait davantage les marchés financiers que la courbe du nombre de manifestants dans la rue. Et tant que les marchés financiers tiennent, on peut tenir bon. Le jour où les marchés financiers commencent à battre de l'aile, c'est beaucoup plus important que le nombre de manifestants dans la rue. Donc, il y a un poids de la finance extrêmement fort qui s'est révélé dans les années 1990 avec une extraordinaire explosion des transactions financières et la création de véritables marchés financiers mondiaux. Or, il faut comprendre que ces marchés financiers ont besoin en permanence d'être alimentés par de nouvelles personnes qui interviennent sur ces marchés financiers, de nouveaux acheteurs, de nouveaux vendeurs. Ces marchés financiers captent l'épargne des particuliers, épargne qui se transforme en achat d'actions, en achat d'obligations. Ces marchés financiers sont extrêmement voraces. Et pour que cette embellie financière qu'on a vue dans les années 90 puisse se maintenir, il faut qu'il y ait toujours plus d'épargne, qu'il soit capté par ces marchés financiers. Et donc, vous pouvez imaginer que, pour certains, en particulier bon, tous les tenants du libéralisme, le MEDEF, etc., tout cet argent que nous donnons en cotisation sociale et qui est reversé instantanément en prestations vieillesse, eh bien, ce serait assez intéressant si on pouvait transformer ça en épargne des particuliers qui pourrait être placée sur ces marchés financiers, alimenter donc la voracité de ces marchés financiers, et qui nous serait reversé ensuite comme pension de retraite éventuellement si les fonds n'ont pas fait faillite entre-temps, qui nous serait reversé au moment de la retraite. Donc, il faut replacer la réforme des retraites dans un capitalisme qui devient de plus en plus financier, de plus en plus rancier.
Barbare.
Bien. Donc, c'est dans ce contexte-là. Alors, j'en arrive maintenant, donc, à la réforme Fillon, plus précise. Je ne vais pas prendre le détail de toutes les mesures, rassurez-vous. Je voudrais simplement avancer avec vous sur une argumentation qui nous permette de déconstruire véritablement l'imposture dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui consiste à nous dire il n'y a qu'une seule voie, il n'y a qu'une réforme possible. Levons toutes les ambiguïtés. Je pense, nous sommes nombreux à le penser, qu'une réforme, véritable réforme des retraites est absolument nécessaire. Nous en sommes conscients, nous ne sommes pas des gens accrochés à ce qui existe, comme on est en train de nous le dire. Une réforme, une véritable réforme est nécessaire, un débat public et collectif est nécessaire sur cette réforme-là. Il y a des enjeux importants. Ce qu'on nous propose aujourd'hui, ce n'est pas une réforme, c'est véritablement une contre-réforme à contenu très fortement idéologique, comme je vais vous le montrer. Les chiffres que j'utilise sont des chiffres qui sont extraits du livre blanc qui avait été commandé par Michel Rocard en 1991, du rapport Charpin, qui était un rapport commandé par Lionel Jospin en 1997, qui a été publié en 1999 et dont les conclusions sont très largement utilisées aujourd'hui par le gouvernement Raffarin pour faire passer la réforme. Et la troisième source que j'utilise, c'est un contre-rapport Charpin qui a été réalisé également dans ces années-là, qui a été mené par la Fondation Copernic. Alors, la Fondation Copernic, il faut suivre ses travaux parce que c'est vraiment très intéressant. Ça a été fondé dans les années 80 par des universitaires et par des syndicalistes également pour précisément travailler sur des contre-rapports puisque c'était l'émergence d'une pensée soi-disant unique et ça a été pour casser la pensée unique, pour essayer de voir s'il n'y a pas d'autres solutions que celles qu'on nous propose. Et il y a eu une publication donc d'un contre-rapport Charpin par rapport à la, de la Fondation Copernic. Et enfin, j'utilise tout simplement les chiffres du Conseil d'orientation des retraites, sur lequel également s'appuie actuellement le gouvernement pour initier sa réforme. Alors, donc les premiers chiffres que je vais donner, ça concerne l'argument démographique. Vous savez que c'est l'argument massue qui consiste à dire il y a un vieillissement de la population et donc on ne peut pas faire autrement, il faut absolument abandonner de fait ou réformer, comme ils disent, le système des retraites par répartition. C'est vrai que le système des retraites par répartition inclut une donnée démographique, puisque ce sont les actifs d'aujourd'hui qui paient pour les inactifs d'aujourd'hui. Donc il faut bien qu'il y ait un équilibre démographique, c'est certain, entre actifs d'aujourd'hui et inactifs d'aujourd'hui, retraités d'aujourd'hui. Donc personne, même si certains le font croire, personne, je crois, dans les gens qui sont dans la rue aujourd'hui, ne nie qu'il y ait un problème démographique, qu'il y a une question démographique que nous devons résoudre collectivement. Personne ne le nie. Il faudrait être de très mauvaise foi pour le nier. Je vais vous donner les chiffres. La part des plus de 60 ans, en l'an 2000, ça c'est les chiffres du rapport Charpin. Et là, ils sont justes, il n'y a pas de problème. La part donc des plus de 60 ans dans la population totale, en 2000, 20% de la population. En 2040, c'est l'horizon du rapport Charpin et de tous les rapports d'aujourd'hui, 2040, les plus de 60 ans seront 33% de la population active. Bien. Ceci est dû à deux éléments, à une baisse de la fécondité. Une baisse de la fécondité, et c'est important de le retenir maintenant pour comprendre la suite, dans tous les pays développés, tous, depuis 1965. Il y a eu le baby boom d'après 45. 45-65, très forte fécondité. Génération donc nombreuse d'après-guerre. Et à partir de 65, à peu près dans tous les pays, recul de la fécondité, avec des variations, mais ça ne se dément pas, avec une exception française, disons-le, actuellement il y a une reprise de la fécondité en France. Toutefois, on n'en tient pas compte, on reste dans le scénario le plus grave, disons, c'est-à-dire dans le scénario dans lequel la fécondité ne reprendrait pas. C'est l'hypothèse du rapport Charpin. Charpin a construit toutes les hypothèses sur recul continu de la fécondité jusqu'en 2040. On prend ça. Donc si on prend ça, 20% de la population en 2000, 33% en 2040. Donc c'est vrai qu'il y a un problème. Aujourd'hui, un actif a à sa charge 0,55 retraités. En 2040, un actif aura 0,975 retraités. Je vous passe le calcul, je l'ai fait, ça veut dire que c'est une augmentation de 77% en 40 ans. En 40 ans, donc, pour chaque actif, il y aura une augmentation de 77% de charges pour que les retraités puissent toucher une retraite dans le cadre des retraites par répartition. Si on convertit, parce qu'il faut le faire absolument, les chiffres globaux ne veulent pas dire grand-chose, si on convertit en taux de croissance annuel moyen, ça veut dire que par actif, on a une augmentation de charges d'ici 2040 à démographie constante de 1,44% par actif. Donc par chaque actif, à démographie constante, va devoir consacrer 1,44% de plus de richesse pour subvenir, pour pouvoir verser correctement les retraites des retraités. Voilà donc les chiffres qui sont donnés par le rapport Charpin, le Conseil d'orientation des retraites, etc. Bien. Alors, est-ce que ce chiffre est aussi faramineux que ça mette en péril complètement le système des retraites par répartition ? Eh bien, pour répondre, il faut le comparer à une autre variable que je n'ai pas encore introduite et qu'il faut introduire, c'est la productivité. En effet, sans rien faire, si vous voulez, spontanément, alors parce qu'il y a des changements techniques, etc.,